Bonjour à tous, chacun et chacune. Je me réjouis, je disais ça à Corentin en me préparant, toujours de nouvelles têtes dans notre assemblée. Je vous salue tout particulièrement, tous ceux qui viennent pour la première fois, peut-être pour la deuxième ou la troisième fois, mais on ne vous a peut-être pas tout à fait repéré. Alors, soyez miséricordieux. Hein. Mais je vous invite vraiment, à l'issue de ce culte, j'invite ceux qui sont les membres de cette église à aller vers aussi. C'est bien sûr sûrement le travail du pasteur, des anciens, etc. Je crois que c'est le travail de toute la communauté d'aller vers. Vous êtes envoyés pour ceux qui viennent là. Vraiment, soyez les bienvenus. Et c'est vrai que je me réjouis de ce que ce matin, nous avons glorifié le Seigneur Jésus-Christ. Je ne voulais pas rajouter aux prières, mais le Seigneur Jésus, l'homme de Nazareth, l'homme qui est sorti de Dieu, celui qui n'a pas revendiqué son égalité avec le Père, celui qui vient guérir les cœurs brisés, celui qui vient restaurer, celui qui vient purifier du péché, celui qui est monté dans la gloire, celui qui règne dès maintenant, celui qui reviendra, celui qui a mis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui mettra, c'est la mort. Et ces paroles me venaient, et on pourrait continuer comme ça. C'est, oui, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une idolâtrie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre de notre foi. Il a été envoyé par le Père, et le Père, une fois qu'il a été glorifié, lui a demandé d'envoyer le Saint-Esprit. Et nous sommes dans cette économie du Saint-Esprit, parce que nous qui sommes aujourd'hui dans ce temps de la grâce, c'est bien par le Saint-Esprit que nous avons reçu, et nous avons demandé, et nous demandons à en être remplis. Et nous savons que des choses font obstacle, mais le Seigneur veut le faire. Et parfois, dans nos vies, dans la marche chrétienne, des choses viennent semer le doute. Des choses voudraient nous voler la bénédiction d'un Dieu qui nous aime, qui a manifesté son amour. Ne renonçons pas. Ne renonçons pas. Ce matin, le thème de mon message, c'est un turban pur sur sa tête. Et alors je me réjouissais, il y avait notre sœur qui avait un turban ce matin. Comme ça, vous avez pu voir ce qu'était qu'un turban. Hein. Et puis d'autres, une couverture Yves, quelque chose sur sa tête aussi. Ça nous parle d'une protection, puis de bien beaucoup de bonnes choses. Je vous invite simplement, ce matin, on va lire quelques versets dans le livre de Zacharie. Zacharie est un prophète qui est prophète du retour de Babylone. Il est contemporain d'Esdras et Néhémie, contemporain de ce peuple qui est, on pourrait dire quand même, ce petit reste après l'exil. Je développerai un peu ça. Et ce peuple revient, le culte est rétabli, le temple reconstruit avec des luttes inimaginables. Et Zacharie va recevoir 8 visions qui sont destinées à aussi annoncer le Sauveur, le germe qui viendra plus tard. Et donc c'est aussi un prophète, qui ramène l'espérance à son peuple à travers ces visions que le Seigneur lui a données. Nous allons lire une de ces visions. Donc dans Zacharie au chapitre 3, et nous lirons les versets 1 à 5. Ce sera mon texte principal. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Un sacrificateur couvert de vêtements sales. Peut-être ça vous choque, mais dans le fond. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament venait présenter à Dieu des offrandes de purification, des holocaustes, pour lui-même, et lorsqu'il présentait ses offrandes, il devait se purifier lui-même avant de demander de porter, il portait quelque part, les péchés du peuple. Pas tellement étonnant dans le fond qu'il soit couvert de vêtements sales. C'était l'économie de l'Ancien Testament, l'économie, les ordonnances, le sacerdoce lévitique, c'était ainsi. Il y a là aussi une figure de Jésus qui, plus tard, portera ses vêtements sales de nos péchés et de nos iniquités. Le contexte de ce passage le disait, donc, ce peuple revient d'exil. Il revient de l'exil babylonien, où il a été envoyé par Dieu lui-même. Je ne vous cite pas tous les passages à l'appui de ce que je vous dis, mais vérifiez-le, vous verrez dans les textes d'Ésaïe et Jérémie notamment, Dieu lui-même va dire « c'est moi qui vous envoie ». Cet exil babylonien nous parle d'un peuple qui a été sauvé à main forte et à bras étendus. Un peuple qui a été conduit par l'Esprit de Dieu au désert. La nuée, le jour, les flammes, la flamme la nuit, n'est-ce pas une image de l'Esprit qui conduit son peuple ? Un peuple qui est entré dans la terre promise, qui a vu Dieu nettoyer le terrain pour lui donner la terre de la promesse, mais un peuple qui s'est égaré dès le début, qui s'est éloigné, un peuple qui a été averti de ses égarements, qui a été exhorté à revenir, un peuple obstiné, qui a résisté, qui a fini par dire « non, nous ne t'obéirons pas », un peuple donc que Dieu se voit contraint de conduire à l'exil, mais là encore, Dieu est intervenu, c'est lui et lui seul, car la colère de Dieu dure un instant, mais sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Il nous faut voir le retour de l'exil comme cela. Le retour de l'exil, ce n'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est notre condition avant de connaître le salut. L'exil, est-ce que ça n'évoque pas peut-être ce qui peut arriver dans la marche chrétienne ? Nous avons connu le Seigneur, nous avons reçu ses bénédictions, nous sommes repentis de nos péchés, nous avons connu la joie du salut, nous avons connu la visitation de l'Esprit et nous avons marché selon l'Esprit. Et puis, devant des choses qui surviennent dans nos vies, car si nous sommes purifiés du péché, il y a la chair qui est là et qui ramène et qui montre les structures qui étaient en nous et comment le supportons-nous et si nous le supportons mal et si nous n'acceptons pas alors de le recevoir de nouveau, de nous repentir à nouveau, nous allons entrer dans des schémas religieux pour cacher tout ça. Mais la miséricorde de Dieu durera toujours. Cette attitude de Dieu, elle est constante dans la Bible, tant que l'on peut dire aujourd'hui, nous pouvons garder l'espérance, nous pouvons compter sur sa miséricorde, la miséricorde de Dieu pour nous secourir, pour nous ramener, pour nous briser nos entêtements, nous pouvons compter. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on peut dire maintenant. Je lisais ce matin dans La Bonne Semence, des maintenant que Dieu nous donne dans la Bible. Maintenant, vous avez été réconciliés, cela est accompli. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant. Donc, tant qu'on peut dire aujourd'hui, le secours de l'Éternel nous est acquis, il est certain. Dans ce passage, la vision, c'est Josué. Josué se tient debout devant l'ange de l'Éternel et Satan est à sa droite pour l'accuser. Satan n'est jamais là pour nous faire du bien. Il est là pour nous accuser. C'est l'Éternel qui dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi. La souveraineté de Dieu est affirmée. Ce peuple, tout petit, marqué par son passage en Égypte, mais encore par ses révoltes, mais encore par son insoumission, mais encore par l'exil à Babylone. Ce peuple petit, Dieu réaffirme, c'est mon peuple, je l'ai choisi. Jérusalem, c'est la ville où je veux être adoré. Et nous savons aujourd'hui que ce n'est plus ni à Jérusalem ni à Samarie, mais en esprit et en vérité. Ce peuple petit, ce peuple misérable, j'entendais la prière de Laetitia, l'église de Jésus-Christ, il réaffirme, c'est mon église. C'est mon église. Et Satan, tu pourras attaquer. C'est mon église. Je l'ai choisi. Nous avons chacun et collectivement été choisis. Satan, l'Éternel te réprime, c'est l'Éternel. Dieu prend notre parti. Il nous arrache au feu, aux griffes de l'ennemi. Non pas parce que nous sommes propres, mais alors que nous sommes sales. Non pas parce que nous sommes propres, alors que nous sommes sales. Nous avons, je le redis, les vêtements de l'Égypte. Nous avons les vêtements religieux bricolés lorsque nous avons essayé de respecter la loi et les commandements de Dieu par nous-mêmes. Alors même que nous étions à Christ. Nous avons travaillé ces derniers temps sur la réforme, et je suis extrêmement touché et personnel, je le partageais dans l'enseignement hier, par ce qu'a vécu Luther, qui a cherché de tout son cœur à plaire à Dieu, mais avec de mauvaises pistes, avec un mensonge. Satan avait glissé le mensonge dans la vie de cet homme, dans sa vie religieuse, considérant que c'était encore à l'autel, encore les sacrificateurs de l'Ancien Testament, encore par les ordonnances de l'Ancien Testament et les mérites et les efforts. Or, cette loi, elle est donnée pour qu'on comprenne bien et que ça nous amène à un désespoir qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Il nous faut l'accepter. Et je disais, quand on voit, il y a des phrases de Luther qui sont la nouvelle naissance. Après des tourments dont il décrit qu'il serait insupportable de les tenir, si Dieu ne l'avait tenu en vie, il aurait été écrasé, peut-être poussé au suicide. Et d'un coup, la lumière se fait. L'œuvre de l'Esprit, sur la base de la parole lue, méditée, étudiée. Et il dit là, je me sens comme un jeune homme, comme la joie. Je suis dans le désordre dans mon message, mais ce n'est pas grave. Je voudrais vous lire, je n'avais pas prévu de le lire à ce moment-là, mais un passage dans Job qui décrit ces choses de manière admirable, qui doit nous encourager. C'est dans Job 33. Quel beau passage. Je pense que Luther et bien d'autres, en tout cas, moi je fais mien ces passages. C'est un passage où Job est en disputatio. Vous savez qu'il dispute avec Dieu. Disputer, ça veut dire, c'est le latin putare, penser. Alors, il discute avec ses pensées, avec Dieu. Et ça amène, dis, ça veut dire qu'il s'écarte. Et nécessairement, si on commence à disputare avec Dieu, on va avoir des problèmes. Mais Dieu le sait. Et c'est Élihu qui parle à Jacob. Élihu est vraiment une figure du Saint-Esprit. Il y a eu ses amis importuns qui sont venus lui dire tout un tas de choses, lui faire tout un tas de recommandations, lui dire ben sûrement tu as péché, ou tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça. Et Élihu lui dit, moi je suis rempli de l'Esprit et je vais te parler. Alors, Jean Job 33, on va lire, on va prendre un petit peu de temps. Élie dit ceci à Job, qui est en argumentation avec Dieu, « Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu au verset 8 du Job 33, « J'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, Je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. » Voilà ce que dit Job. « Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. » Dieu est plus grand que l'homme, frères et sœurs. Non, bien sûr. Des fois, on fait comme si on était aussi grand que lui. « Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon, le germe annoncé Jésus-Christ. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et dit, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme. Pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Josué se tient devant l'ange, Satan accuse, l'Éternel réprime. Satan accuse. Mais la parole nous dit là, « Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. » Satan, Dieu voit les vêtements sales de Josué. Satan voit les vêtements sales de Josué. Satan accuse. Et quand on a traversé une vie dans l'Égypte, après la conversion, avec des temps où on s'est bâti un système religieux, quand on revient de l'exil, parce que parfois, ne réussissant pas par nos propres forces à satisfaire l'exigence de Dieu que nous connaissons par la nouvelle naissance, il nous arrive, et je pense à des hommes et des femmes qui se sont éloignés de Dieu et qui ont été recherchés dans la Babylone moderne, des substituts au pardon de Dieu, de toutes sortes. Parce qu'on voit bien ceux qui ne sont pas convertis, mais ceux qui sont avec Christ, et qui, dans le désespoir, ne reconnaissant pas tout ce qui se passe en nous, vont tenter d'aller rechercher dans le monde, qui va leur expliquer qu'ils sont malheureux, qu'ils ont connu tout un tas de choses, etc. Et c'est vrai. Qui vont un moment mettre de côté la puissance de l'œuvre de la croix. C'est ça, la Babylone moderne. Je rappelle que la Babylone n'est pas l'Égypte. C'est un espèce de retour à ceux qui ont connu, à ceux qui ont été remplis, à ceux qui ont eu la révélation, mais qui se sont à un moment découragés, anéantis par ce que Dieu remontait de nos vies, nous citons souvent. Oui, cette vie chrétienne avec toutes ces tribulations qui ont été annoncées, cette vie chrétienne, peut amener à l'épuisement, au découragement, à la révolte. Frères et sœurs, Dieu nous voit ainsi avec les vêtements sales, mais l'ennemi aussi, et l'ennemi nous accuse, et ne nous laissera pas, et jusqu'au bout, il nous accusera. Il nous accusera, nous rappelant notre passé. Nous rappelant notre passé avant la conversion, nous rappelant nos chutes pendant la marche. Nos chutes pendant la marche. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Tous ces vêtements sont là sur nous. Tous ces vêtements sont là sur nous. Mais l'ange déclare à ce moment, ôtez-lui les vêtements sales. Vois, vois, je t'enlève ton iniquité. Vois, je t'enlève ton iniquité. Vois, reconnais, oui, tu es dans cet état. Vois, mais je t'enlève, moi. À quel moment l'ange enlève ? Après que l'Éternel ait dit, Satan, je te réprime. Satan, je te réprime. C'est pas Satan qui a la main. Je veux pas multiplier les lectures. Mais quand on lit dans le livre de Job encore, à deux reprises, Satan se présente avec les enfants de Dieu devant Dieu. Mais c'est Dieu qui tient l'ordre du jour. L'ordre du jour du Conseil des ministres est fixé par le président de la République. L'ordre du jour, quand il y a un conseil et que les gens s'approchent de Dieu, c'est Dieu qui le fixe. Ce n'est pas Satan qui prend l'initiative. C'est Dieu qui dit, as-tu vu mon serviteur Job ? Et Satan, dans sa méchanceté, dit, oui, mais essaye ça. Dieu, Satan, Job te sert parce qu'il a été béni, parce qu'il a des richesses. Mais enlève-lui les richesses, tu vas voir si ça va continuer. La méchanceté, l'insinuation. Dieu dit, va jusque-là. C'est Dieu qui met la limite de notre épreuve. De nouveau, Satan se présente avec les fils de l'homme. Et Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job en te promenant sur la terre, en faisant tes mauvaises actions, as-tu vu ? Oui. Reconnaît-il sa défaite ? Puisque toutes les richesses ont été enlevées à Job. Et Job continue. Ne renie pas Dieu. Il va plus loin. Touche à sa santé. Ah, la santé. Touche à sa santé. Et Dieu dit, touche à sa santé. Jusque-là, pas au-delà. Le jusque-là était déjà loin. Je ne sais pas ce que c'était comme ulcère. En tout cas, Job se grattait avec des tessons de bouteille. Et là, l'épreuve va toucher son entourage. Sa femme va lui dire, tu supportes tout ça ? Maudit Dieu plutôt, et meurt. Il trouve encore la force de dire, ma chérie, t'es insensé. En tout cela, Job ne pécha point en parole contre l'Éternel. Si nous ne bronchons plus, nous sommes parfaits, mais nous bronchons. Seigneur, viens nous aider. Des fois, on trouve que la dose est trop forte. Seigneur, viens nous aider. Tu as soutenu Job. Tu lui as montré ce que tu voulais lui montrer. Mais tu l'as soutenu, tu ne l'as pas abandonné. Notez que ce n'est pas l'ange qui parle à Satan. Ce n'est pas l'homme, c'est l'Éternel. Et je voudrais faire juste une toute petite parenthèse, ou plutôt une insistance sur ce point. Cette parole de Zacharie 3, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, est repris dans le Nouveau Testament par Jude et par Pierre. Et je vais lire ces passages parce que je crois qu'il y a là quelque chose d'important. C'est l'Éternel qui réprime, qui a l'autorité sur Satan. Dans Jude, on va y arriver, au verset 8 de Jude, et aussi bien Pierre que Jude le cite vraiment dans le même contexte, dans le contexte de temps où il y aura des séductions, des faux docteurs. Jude, c'est une lettre qui vraiment met en garde contre des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, etc., qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Et au verset 8, il est dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime, citant ainsi Zacharie. L'archange Michel lui-même n'a pas pris à respecter. Satan est un chérubin élevé qui était précieux, qui avait un rang élevé dans le royaume céleste, qui a voulu s'élever au-delà, qui a été précipité. Pour autant, même les anges, même les archanges ne se permettent pas d'injurier. C'est l'affaire de Dieu. C'est une affaire dans laquelle c'est Dieu qui intervient. Dans 1 Pierre, nous pouvons lire, on voit exactement les mêmes termes. Deux Pierre 2, versets 9 à 11. Je vais lire à partir du verset 9, oui. Le Seigneur, je ne peux pas vous donner tout le contexte, mais le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Nous avons là une mise en garde à être à notre place et à laisser Dieu accomplir sa justice. C'est lui qui nous justifiera. C'est lui qui nous sauvera de nos détresses. C'est lui qui nous sortira de la même façon qu'il nous a arrachés au feu. Il nous arrachera encore lorsque nous connaîtrons des moments difficiles. Lui et lui seul. Et lui fera son affaire avec les puissances mauvaises. Lui fera la part des choses entre Satan qui accuse et ce qu'il y a dans notre propre justice qui doit être réglée. Il est notre justice. Là encore, dans une prière, il était dit « Pardon, Seigneur, pour chaque fois que nous avons tenté de régler, de faire justice. Cela ne peut pas être pour nous. Supportons. C'est Dieu qui est notre justice. C'est Dieu qui fera justice. Il le fera inspiré par l'amour, par cet amour qui ne soupçonne pas le mal, par cet amour qui est patient, par cet amour qui supporte tout, ce dont nous sommes bien incapables. Sauf quand il a bien sa place en nous. Et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce que nous voulons recevoir. Après cette œuvre-là, les vêtements sales sont ôtés, mais le Seigneur ne nous laisse pas nus. Il nous revêt d'habits, pas n'importe quel habit, des habits de fête. Je ne développerai pas les habits de fête, mais je crois que les textes parlent bien. Ça nous parle effectivement de la nouvelle naissance. Et nous témoignons souvent de notre nouvelle naissance. Mais témoignons-nous souvent de ce que, après avoir marché avec Dieu, après avoir connu des périodes difficiles où Dieu semble absent, où peut-être après des temps de misère, de dépression, après des temps de retour à Babylone, j'avais le témoignage d'un frère qui pendant 6-7 ans, quelqu'un qui a servi Dieu, puis à un moment, une chape qui est venue, pendant 6-7 ans, j'allais dire le trou noir, la honte d'être avec les frères, ne pouvant plus témoigner, témoignons-nous. Je prie le Seigneur qu'on ait témoignage, qu'on puisse se dire, j'ai marché 20 ans avec le Seigneur, puis j'ai connu une période comme ça. Mais le Seigneur m'a retiré, comme le souverain sacrificateur. Il a ôté les vêtements que j'avais repris peut-être au renfiné. Il m'a redonné des vêtements de fête. Il fait plus. Et vraiment, c'est ce verset qui m'a touché dans ma lecture quotidienne. Mettez-lui un turban pur sur sa tête. Mettez-lui un turban pur sur sa tête. Mettez-lui le casque du salut. Mettez-lui mes pensées pour remplacer ses pensées. Mettez-lui cette protection. Mettez-lui encore ce revêtement d'autorité, car le turban, je crois qu'il y a là une notion d'autorité reçue de Dieu. Il est mon fils. Je pense qu'il y a là, dans l'imposition des mains, quelque chose aussi qui vient de Dieu qui vient revêtir, pour garder nos pensées en Jésus-Christ, pour renverser les pensées, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Ce turban, il est pur. Et c'est ce turban qui va nous garantir de déceler rapidement les mauvaises pensées, le soupçon du mal, qui n'est pas l'amour. Je vous rappelle que dans 1 Corinthiens 13, l'amour agapé se définit largement par ce qu'il n'est pas. Et plus simplement parce qu'il est. Il est patient, il supporte tout, il endure tout. Mais il n'est pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne tient pas compte du mal. Il n'est pas envieux. Il n'est pas tout ce que Satan veut susurrer à nos oreilles et à notre cœur. Il n'est pas cela. Et le Seigneur place sur nos têtes un turban pur. Recevons ce turban. Croyons qu'il l'a placé. Croyons qu'il l'a placé. Ce casque du salut. Le combat ne cessera pas. L'accusateur ne cessera pas. Car il parle de son propre fond. Il est menteur. Il est inique. Il est méchant. Et ce n'est pas difficile. Qu'il nous attaque. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Dans ma vie, il y a de la matière. Il peut y aller. Il peut y aller. Mais je proclame ce matin, je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ a placé sur ma tête, a placé sur vos têtes un turban pur. C'est lui. Il a choisi son peuple. Il a choisi son Église. Et il la gardera. Il la gardera parce que c'est lui qui en est la tête. C'est lui qui en est le chef, c'est lui qui l'a conduit, c'est lui qui nous rendra inébranlables, c'est lui qui nous affermira, c'est lui qui nous relèvera. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous as rachetés. Nous sommes chacun, Seigneur, des tisons que tu as arrachés au feu. Seigneur, merci pour cela. Seigneur, tu es encore celui qui, dans notre marche, nous relève. Seigneur, tu permets que des fois l'épreuve dure, mais tu ne nous éprouves pas au-delà de nos forces, Seigneur. Tu permets la détresse et le désespoir de nous-mêmes, mais pas le désespoir de toi. Tu permets que nous soyons abattus, mais pas perdus, Seigneur. Tu permets que ta mort agisse en nous, Seigneur, pour que ta vie agisse en nous. Tu permets que ta mort agisse en nous, pour que ta vie jaillisse en nous de ces vases d'argile vers nos frères et sœurs. Seigneur, je confesse ce matin que tu as pris mon iniquité, que tu as pris mon péché. Seigneur, je reçois ces habits de fête. Je reçois, Seigneur, ce turban pur que tu places sur nos têtes. Seigneur, vois ton Église, vois ton peuple, celle que tu conduis vers la Jérusalem céleste, la ville que tu as choisie, cette cité céleste, Seigneur. Vois ton peuple qui est en route, Seigneur, qui parfois l'oublie. Vois ton peuple, Seigneur, que tu conduis jusqu'à toi, tu l'as précédé, que tu t'en prépares, oui, à déménager, Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Viens encore, Seigneur, nous t'offrons nos vies. Seigneur, nous t'offrons pas notre pureté, nous t'offrons pas, Seigneur, mais nous t'offrons nos vies, tu la connais, tu la vois. L'ennemi, sache, souviens-toi, Père, que l'ennemi voit nos vies aussi, Seigneur, et qu'il nous accuse. Mais Seigneur, je me réjouis ce matin parce que tu me rappelles que c'est toi qui as autorité et c'est toi qui dis à Satan, je te réprime, Satan. Seigneur, que ta bénédiction, que ton amour, que ta grâce soit encore sur nos vies, sur la vie de ton Église, sur la vie des églises locales, Seigneur, de cette ville, de cette nation, Seigneur. Seigneur, nous nous humilions devant ta face. Je m'humilie devant ta face, Seigneur. Je m'approche, je purifie mon cœur, Seigneur. Viens purifier mon cœur irrésolu, Seigneur. Viens le purifier. Viens encore travailler nos cœurs, Seigneur. Mais nous voulons continuer et persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen.